La foi en Jésus nous ouvre le fleuve. Jésus nous a délivrés de la puissance de Satan. Il nous a rachetés. Et nous a ravis dans son royaume éternel. Ce fleuve coule encore aujourd'hui. Du côté de Jésus. Ce fleuve coule encore aujourd'hui. Du côté de Jésus. Oh, courant précieux que nous apporte le salut. Descend directement du ciel. De manière merveilleuse. Ce fleuve se déverse librement et sort du côté de Jésus. Sort du côté de Jésus. L'Esprit dit, venez, buvez gratuitement de ce fleuve. Il transforme ton cœur, qui était un désert, à un paradis. Ce fleuve se déverse puissamment, librement, du côté de Jésus. Encore aujourd'hui. Les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, aussi la gentillesse, la patience, la foi, la douceur et toutes ces vertus, on les trouve en ceux qui sont devenir enfant de l'esprit. Ce fleuve se déverse librement du côté de Jésus. Se déverse librement du côté de Jésus. Rends-moi calme, Seigneur, c'est ma prière. Calme. Pour voir tes merveilles dans ta parole. Calme. Pour entendre ta parole, ta voix, et avoir communion seul avec toi. Que je sois calme, bien-aimé Seigneur et Sauveur. Prépare-moi pour l'éternité. Dans la solitude avec toi. Rends-moi calme quand le danger me menace. Calme, sachant que tu connais le problème. Calme. Faisant confiance à ta puissance. Calme. Dans l'amour qui veille sur moi. Que je sois calme, bien-aimé Seigneur et Sauveur. Prépare-moi pour l'éternité. Dans la communion seule avec toi. Que je sois calme dans l'attente. Dans la bataille, dans la patience, devant les douleurs et la joie du prochain, calme, prêt à aider. Que je sois calme, bien-aimé Seigneur et Sauveur. Prépare-moi pour l'éternité dans la communion seule avec toi. Que je sois calme, profondément calme, jusqu'à que ce que tu veux, je le veuille de tout mon cœur, jusqu'à que toi tu sois plus grand et que moi je sois petit, jusqu'à que tu deviennes tout en tout. Que je sois calme, bien-aimé Seigneur et Sauveur, prépare-moi pour l'éternité
Amen.
Amen.
Auch ich möchte alle ganz herzlich willkommen heißen.
Moi aussi je voudrais saluer tous à cette réunion, que Dieu fidèle nous bénisse. Il nous a bénis par sa parole puissamment et il a parlé par son esprit hier et nous attendons encore ce matin qu'il continue à parler et qu'il nous révèle sa volonté. Nous sommes heureux de ce que nous pouvons venir et que nous avons encore l'occasion de saisir cette possibilité et de visiter ces réunions et c'est ainsi qu'il peut recevoir ce qui lui revient de plein droit. Il a rendu toutes choses merveilleuses. Nous sommes heureux et reconnaissants de tout notre cœur de ce qu'il nous conduit et il conduit nos cœurs et nos pensées à lui, vers lui. Je voudrais lire une parole dans Jacques. Jacques, le chapitre 5. Ici, Jacques dit la chose suivante. Jacques, chapitre 5, à partir du verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Si Jacques autrefois pouvait le dire et l'écrire, qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui? Nous sommes encore plus rapprochés de cet avènement. Et nous ne savons pas, c'est vrai, quand est-ce que cela arrivera, mais tel que nous l'avons entendu, mais loué soit le Seigneur, c'est bien de ce que nous ne savons pas. Ce qui est important, c'est qu'il y en a un qui le sait et nous en sommes très reconnaissants. Ensuite, il est dit ici, à partir du verset 9, ne vous plaignez pas les uns des autres frères afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Ensuite il dit, qui étaient ces gens? Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Nous sommes tellement heureux, reconnaissants de ce qu'il nous a fait grâce, plein de compassion et de miséricorde. C'est ainsi que nous voulons rien faire d'autre que de lui apporter la louange et la reconnaissance. Nous voulons nous le faire encore pour la prière. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions de la profondeur de notre cœur pour ta grâce et ton amour qui nous a cherché, qui nous a trouvé. Seigneur, nous savons qu'avant même la fondation du monde, nous étions déjà, tu nous as déjà vus, nous étions devant tes yeux, nous étions dans ton cœur. Bénis-nous aujourd'hui par ta parole. Bénis particulièrement le frère Franck qui apporte ta parole. Tu l'as déterminé à cela et nous te faisons confiance que ce que tu as commencé, tu l'accompliras, tu l'achèveras. Bénis ton peuple, loin et près, tous ceux qui sont reliés en direct dans tous les peuples, les langues et les nations. Nous mettons notre confiance en toi encore ce matin et donnons à toi seul l'honneur. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Toujours fidèle à Jésus, toujours fidèle à lui. Nous nous asseyons. Fidèle à sa croix jusqu'à ce que nous entrons à la maison.
Amen.
Amen.
Loué et exalté soit le Seigneur notre Dieu pour sa grâce et sa fidélité. Nous avons ce matin déjà tôt reçu des emails, des appels. Le premier appel vint de Melbourne, de l'Australie, de Kinshasa, ensuite de Nairobi, de Johannesburg, de Guadeloupe, de la Guadeloupe, de partout. Nous avons reçu la nouvelle que des frères et des sœurs ont écouté et ont vu en direct hier et se sont réjouis avec nous. Aujourd'hui, nous avons un email. Un email particulier de notre bien-aimé frère Schautz. Et ici, il est dit, bien-aimé frère Frank, de tout notre cœur, je te souhaite et à toi et à toute l'Église, à toute l'Assemblée, les riches bénédictions de Dieu de Shanghai. De Shanghai. Tous savent où Shanghai se situe et nous sommes très, très reconnaissants aussi les paroles qui maintenant encore suivent. C'est une grande bénédiction de ce que aujourd'hui, de toutes les extrémités de la terre, on peut écouter la parole originale pour que s'accomplisse que de toutes les langues et les nations, le Seigneur appelle les siens à sortir. Je te remercie, etc. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. C'est merveilleux, nous avons toujours eu à le dire, c'est la grâce de Dieu. Et Nous estimons aussi beaucoup de ce que vous venez. Et ainsi, le monde entier apprend que le Seigneur a une église qui est, c'est vrai, éparpillée dans tous les nations, les peuples et les nations, mais comme cela était avec tous les hommes de Dieu, on a besoin d'une plateforme, d'une assemblée locale pour prêcher, pouvoir prêcher la parole de Dieu. C'est ainsi que c'était aussi avec frère Branham. Il avait une église et il disait, quand je vais dans d'autres villes, quand je suis dans d'autres villes, je dois faire attention aux prédicateurs, à l'église. Mais ici, je peux dire tout tel que Dieu me l'a accordé. Frère Branham était un homme sympathique, agréable, plein d'amour, qui a toujours estimé les autres et respecté la chair et n'a jamais utilisé le podium d'un frère pour dire quelque chose et prêcher quelque chose qui ne serait pas entendu sans frottement, sans qu'il n'y ait pas de problème. Mais chez lui, à la maison, dans l'assemblée locale, il a pu librement et ouvertement dire tout. Il, la personne ne pouvait le tirer par la veste et lui dire non, écoute, pas ainsi. Non, Dieu a conduit les choses ainsi que là-bas, il pouvait dire tout comme il avait reçu. Et c'est ainsi que nous avons, pendant ce week-end, tout un bus de la Slovaquie avec nos bien-aimés frères et sœurs. Je le dis librement et ouvertement, quand des personnes entreprennent plus de 1200 kilomètres pour écouter la parole de Dieu, qu'est-ce qui devrait alors se passer avec nous? Quel sérieux, quelle responsabilité nous a été accordée par Dieu. Nous avons aussi nos frères de Montréal, de Pretoria, du Ouzbékistan. Qu'est-ce qui les a tirés jusqu'ici? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus ici? Sûrement pas parce que cette ville est une ville qu'on doit voir et visiter. Non, ils viennent à cause de la parole de Dieu. Et Dieu a dit qu'il enverra une fin d'après sa parole. Et mes bien-aimés frères et sœurs, il y a aujourd'hui beaucoup qui suivent tous ces grands hommes qui parlent de miracles, de prodiges. Ici, c'est différent. Ici, il s'agit de la parole. Il s'agit de la nourriture spirituelle et de ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Et le Seigneur confirme sa parole par les miracles et les prodiges qui l'accompagnent. Encore hier, je l'ai entendu dans le bureau, j'ai entendu dans le bureau deux témoignages merveilleux de personnes qui ont été, que Dieu a guéries du cancer. Nous ne faisons pas de publicité, mais nous disons avec un cœur reconnaissant que Dieu est fidèle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Il confirme sa sainte et précieuse parole. Nous nous réjouissons de ce que tous vous êtes venus et particulièrement tous ceux qui sont là pour la première fois. Levez-vous rapidement. Qui est là pour la première fois pendant ce week-end? Pour ce week-end, levez-vous. Si, certains, si, quelques-uns. Oui, que Dieu le Seigneur vous bénisse, soit avec vous. Nous nous réjouissons. Nous espérons et croyons que ce ne sera pas la dernière fois, que ce n'était pas la dernière fois. Que Dieu vous bénisse et toujours vous êtes la bienvenue. Dieu voulant, à partir d'aujourd'hui, donc dans une semaine, je serai à Pretoria, Kapstadt, Durban, Port d'Elisabeth, Johannesburg et éventuellement dans deux pays voisins en Afrique du Sud. Nous devons racheter le temps. Il est précieux et c'est toujours une grande fortification pour tous les frères quand ils sont affirmés dans la parole de la vérité. Nous avons encore aujourd'hui annoncé ce jour comme un jour de la Bible et nous voulons, vous tous qui avez des amis, des frères et des sœurs qui veulent avoir une Bible, vous pouvez tout à l'heure encore venir la chercher. Il y en a encore quelques, il y a quelques exemplaires encore à votre disposition. Bien, mes frères et sœurs, nous venons d'écouter déjà une parole merveilleuse dans Jacques, le chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Hier, nous avons eu à parler de ce que le mot « avènement » signifie. Notre Seigneur disait, « Je vais vous préparer une place et je reviens vous prendre avec moi pour que vous soyez là où je suis. » Pas un enseignement, pas une certaine révélation, mais lui-même. Lui-même qui nous a rachetés et qui est allé nous préparer une place. Il reviendra et il prendra les siens avec lui. Ensuite, nous avons les paroles merveilleuses dans Matthieu 25 concernant les vierges folles et les vierges sages. Et toujours de nouveau, la question est poser. Qu'est-ce qui diffère les vierges sages des vierges folles? Les deux ont des lampes, les deux ont de la lumière, les deux sont vierges pures. Où est la différence? Je crois que à Zurich, je l'ai dit, la différence constitue en ce que par exemple comme Marie, elle l'avait dans son temps reçu la parole de la promesse et l'esprit vint sur elle. Et c'est ainsi que la parole devint chair et a habité parmi nous et nous virent sa gloire, la gloire du Fils seul engendré du Père. De la même manière, les vierges sages, maintenant, reçoivent la parole de la promesse en elle. Et le Saint-Esprit vient sur nous pour que Christ en nous, l'espérance de la gloire, soit manifestée et que la vie nouvelle divine soit manifestée en nous. Nous tous, nous savons que la pluie tombe sur les justes et les méchants, sur les bons et les méchants, sur les justes et les injustes. Le soleil brille sur tous. Mais la différence est contenue réellement en ce que les vierges sages reçoivent la parole de l'heure, la parole de la promesse. Et elles savent que c'est de manière surnaturelle que Dieu a agi dans notre temps. Comment est-ce que le commencement du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance a commencé? Nous avons eu souvent à le dire. Il a commencé d'une manière surnaturelle. Le ciel est descendu sur la terre, s'est penché sur la terre et l'ange Gabriel a donné à Zacharie cette promesse concernant la naissance de Jean-Baptiste. C'est ainsi que le Nouveau Testament a commencé. Le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament a été placé. Luc 16, verset 16. La loi et les prophètes sont venus jusqu'à Jean, et à partir de là, le royaume de Dieu est prêché. Un nouveau commencement a eu lieu. Jusqu'à maintenant, tous pouvaient faire tel que cela leur semblait bon, mais à ce moment-là où ce nouvel temps commençait, il fallait qu'on fasse ce qui est juste devant Dieu. Et c'est ainsi que nous avons exposé que celui qui accepte, reçoit un homme de Dieu, qui, en vertu d'un appel divin, prêche la parole de Dieu. Et celui qui accepte cette prédication, il accepte celui qui l'a envoyé. Et celui qui accepte, qui reçoit celui qui l'a envoyé, il doit aussi réellement recevoir, accepter la parole que cet homme, la prêche, cet homme que Dieu a envoyé. C'est ainsi que c'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 5 et 6. Jean était un homme envoyé de Dieu. Bien mes frères et sœurs, le premier livre que John Linsdale a écrit sur le ministère de frère Branham porte le nom « Un homme envoyé de Dieu ». Et ça, nous l'avons reconnu. Nous l'avons pas méprisé, mais nous avons reconnu qu'il y a une promesse qui maintenant s'est accomplie. Et c'est ainsi que par la grâce de Dieu, nous pouvons avoir part à ce que Dieu fait maintenant. De la même manière, nous savons, après que le ministère de Jean-Baptiste fut achevé, notre Seigneur a commencé le sien. Et après que le ministère de notre Seigneur et l'œuvre de la rédemption fut accomplie, c'est ainsi que l'Église du Nouveau Testament, par le déversement, par l'effusion du Saint-Esprit, fut né. Et c'est ainsi que tous les déroulements du destin du salut, dans ces différentes étapes, si on veut le formuler ainsi, pris son cours. Un ministère est entré dans l'autre, et de nouveau l'autre à l'autre, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que le Seigneur a une église dans laquelle il a établi des dons, des ministères et des devoirs pour prêcher la parole. Et nous avons la grâce à la fin du temps de la grâce de vivre. C'est un privilège, mais ce privilège est lié à des responsabilités. Ça, nous l'avons pas cherché ou bien inventé ou imaginé. Cela nous a été accordé par Dieu. Et c'est ainsi que nous recevons cette responsabilité devant Dieu de prêcher la vraie parole de Dieu et la porter dans le monde entier. Et nous témoignons que chaque enseignement des Écritures doit au moins se reposer sur deux ou trois témoins, sur deux ou trois ou plusieurs versets bibliques. Un seul verset biblique, une seule citation, un seul verset. Chacun peut l'utiliser de tous les différents côtés comme il le veut. Mais non, avec tout ce que nous enseignons, nous allons de verset biblique en verset biblique. Nous reposons toutes choses au moins sur deux ou trois versets. Nous allons de l'Ancien au Nouveau Testament, des Évangiles aux Actes des Apôtres, des Actes des Apôtres aux Épîtres des Apôtres, des Épîtres, nous allons à l'Apocalypse. C'est ainsi à l'Apocalypse que Dieu, pour achever, a accordé. Et nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous a accordé ce privilège de croire comme l'a dit les Écritures. La parole de l'Épître aux Romains, le chapitre 11, nous allons souvent encore la lire pour toujours de nouveau représenter devant les yeux comment la parole de Dieu est importante. pour des représentants, pour montrer l'importance de la parole de Dieu. Romains chapitre 11, verset 3 et 4. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Maintenant, au verset 4, suit cette expression extraordinaire. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Une réponse humaine ne nous intéresse pas. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Qu'est-ce que Dieu répond? Donne comme réponse. Il répond toujours par sa parole. Ici, cela est écrit. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Autrefois, il y en avait 7000. Combien il y en a aujourd'hui? Nous ne le savons pas. Mais le Seigneur connaît les siens. Et ensuite, cette expression extraordinaire suit au verset 5. De même, aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Un reste. Un reste. Je n'en peux rien. Dieu a fait le choix, et cela avant même la fondation du monde. Mais je suis reconnaissant de ce que nous appartenons à ce reste et que nous avons trouvé grâce devant Dieu et que nous écoutons et que nous pouvons recevoir ce que le Seigneur nous a promis et ce qu'il a dit dans sa parole. Le verset 6, nous avons aussi déjà insisté là-dessus. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. C'est par grâce que nous avons été appelés à sortir, que nous sommes sortis. C'est par grâce que nous avons été séparés, mis à part. C'est par grâce que nous croyons et écoutons la parole de l'heure que nous avons écoutée et que nous suivons la parole de l'heure. Car c'est l'important, c'est ce qu'il s'agit, pas seulement d'écouter la parole de l'heure, mais de la croire et d'obéir et de suivre, de mettre en pratique. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons aussi toujours de nouveau eu à insister là-dessus. L'Église doit maintenant, à la fin, revenir au commencement. Et ensuite, nous devons aller dans Actes des Apôtres, chapitre 1, en relation avec Luc, chapitre 24, verset 47, où notre Seigneur, là, au verset 47, a donné l'ordre que, en son nom, la repentance et le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations, à tous les peuples. Et ensuite, il est dit en insistant, demeurez à Jérusalem jusqu'à que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, jusqu'à que la promesse du Père soit devenue une réalité. Et c'est ensuite seulement que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons ici aussi eu à le dire, si Pierre avait tenu une prédication sans avoir lui-même d'abord expérimenté l'effusion du Saint-Esprit, alors il n'y aurait pas eu 3000 personnes en un seul jour qui seraient devenues croyants. Et selon Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 41, ils se sont aussi même laissés baptiser. Une prédication qui n'est pas accompagné de la puissance du Saint-Esprit ne montre aucun résultat biblique. Et nous tous, nous devons faire en sorte que la puissance du Saint-Esprit soit manifestée comme au commencement, encore maintenant, à la fin. Et ensuite, ce n'est pas Pierre, mais c'est le Saint-Esprit qui accompagne la parole et qui convainc les hommes du péché pour qu'ils se repentissent et reviennent au Seigneur et consacrent leur vie au Seigneur, et lui consacrent leur vie et dans l'obéissance de la foi se laissent baptiser. Ici, dans Actes des Apôtres, au premier chapitre, l'homme de Dieu, au verset 2, a écrit concernant notre Seigneur jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Quarante jours, et notre Seigneur a eu avec, est resté avec les siens pour s'entretenir avec eux du royaume de Dieu. Ensuite, il est écrit au verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais bien-aimés, nous sommes conscients que le Seigneur, par sa parole puissante révélée, qu'il l'a révélé fraîchement du haut des cieux, du trône, parle avec nous. Pour nous, ces choses ne sont pas seulement écrites dans, quelque part dans Ésaïe, ou bien dans Jérémie, ou bien dans les Actes des Apôtres. Pour nous, ces choses-là sont écrites dans notre cœur. C'est une parole directe, vivante, que nous avons reçue, et avec un oui de tout le cœur, nous avons la grâce de recevoir cette parole. Ce que nous devons la chose à laquelle nous devons faire toute attention est écrit dans Zacharie chapitre en relation avec le peuple d'Israël. Et nous bénissons Israël au nom du Seigneur. Et s'il vous plaît, venez tous ceux qui veulent venir. Zacharie chapitre 1. Donc, Zacharie chapitre 2, verset 12, l'Éternel possédera Judas comme sa part dans la terre sainte. Zacharie chapitre 2, verset 12. Et il choisira encore Jérusalem. Où est-ce que l'Éternel, le Seigneur, possédera son Église comme sa part, comme son appartenance? Non, pas tant qu'elle est encore éparpillée dans toutes les organisations et les dominations. Là, le Seigneur, dans tous ces différents endroits, n'a pas le droit de parler, n'a pas le mot. Là, ce sont les prédicateurs, là, ce sont les pasteurs et les prêtres qui ont déjà un programme pour toute l'année, le premier dimanche, d'après le Trinitaire, un tel texte sera lu le deuxième dimanche, le troisième dimanche, comme ça, tout un programme pour tout le mois, pour toute l'année, est déjà à l'avance, déjà écrit. On a seulement besoin de le laisser se dérouler. Mais le Seigneur ne peut pas parler dans de tels endroits. Où est-ce qu'il peut parler? Dans son Église, là où la parole d'une manière nouvelle est placée sur le chandelier. Vous, ici en comparaison, je voudrais lire le verset 12 encore, dans Zacharie, chapitre 2. L'Éternel possédera Judas comme sa part dans la terre sainte, dans la terre sainte, sur le terre, sur le sol saint, dans le pays de la promesse, dans le promesse des, dans le pays des pères. C'est là qu'il les possédera. Et nous avons l'accomplissement des promesses déjà en grande partie déjà vu et expérimenté. Le peuple d'Israël est revenu de 143 pays, a été pris dans 143 pays, ils sont revenus dans le pays de la promesse. Et il est écrit, Est, rendez-les, Nord, ne les retenez pas. Et ils reviennent dans le pays de leur père, sur la terre sainte. Et c'est là, à Jérusalem, que Dieu encore les choisira comme sa part, les possédera. De la même manière, c'est aussi c'est le cas avec l'Église du Nouveau Testament. Je le répète encore une fois. Où est-ce que Dieu, aujourd'hui, peut avoir la parole là? Non, seulement dans son Église. Tous les autres sont dans leur propre programme. C'est ainsi qu'il est écrit après, au verset 13, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. En allemand, il s'est levé de sa demeure sainte. Bien, mes frères et sœurs, nous vivons dans le temps de l'accomplissement et nous avons eu souvent déjà à le dire en insistant, reconnaissant de ce que nous pouvons vivre maintenant avec la révélation de la parole et de la volonté de Dieu, dans toute la crainte et dans tout le respect devant l'ordre du salut de Dieu et devant chaque parole qui est écrite dans un contexte bien précis. Et là où chaque verset est écrit, c'est là que c'est sa place originale. Et tous les autres versets qui aussi appartiennent à ce verset doivent aussi être pris avec ce verset qu'on considère pour en avoir réellement la signification. Ainsi, dans 1 Pierre, nous n'avons pas seulement une annonce, mais la constatation que nos frères, au commencement, ont prêché la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et ensuite, il est parlé de choses dans lesquelles les anges souhaitent aussi verser le regard. 1 Pierre, chapitre 1, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors vous serez mes témoins. Alors vous porterez ma parole et je serai avec vous et j'accompagnerai ma parole et je la confirmerai par des signes, des prodiges et des miracles. L'Église doit revenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous devons chercher l'union dans l'esprit et la trouver et ensemble l'expérimenter. Et c'est peut-être raison que c'est nécessaire que tous nous puissions abandonner nos propres connaissances et enseignements et les laisser derrière nous et nous laisser enseigner par Dieu lui-même, chacun individuellement, car c'est ainsi que c'est écrit, que ce n'est pas un frère qui enseignera l'autre, mais que tous seront enseignés par Dieu. Et ainsi, nous venons aussi à ce point important. Pourquoi Est-ce que tous ont mal compris? Repartez dans l'histoire de l'Église. Chaque parole de Dieu a été incompris, a été interprété, et partout on peut le lire. Il y a des directions de foi et des dénominations qui ont apparu. Et aujourd'hui, combien est-ce que nous avons d'églises? 275 ou bien 72, il y a quelqu'un qui écrit, qui parle même de milliers quand on veut encore compter tous les petits groupes à droite et à gauche. Et tous disent qu'ils croient au seul Dieu et ont la même Bible. Malgré tout, avec le même livre, ils viennent à des décisions différentes et à des résultats et des connaissances différentes. C'est pour cette raison que Dieu nous a envoyé un message dans lequel un résumé de tout le dessein, le conseil du salut de notre Dieu est contenu. Que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, que ce soit l'Évangile jusqu'à l'Apocalypse, nous vivons réellement après l'ouverture des sceaux. Nous vivons dans un temps précieux, glorieux, et nous avons reçu l'accès aux choses que les prophètes ne pouvaient pas savoir. Ils ont fait que sonder l'époque dans laquelle ces choses s'accompliraient. Et ils se sont endormis avant le temps de l'accomplissement. Toujours de nouveau, le Seigneur nous dirait, bienheureux sont vos yeux. Et mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes conscients de la grâce que nous avons d'avoir été appelés à sortir et d'être sortis, d'être mis à part, d'être séparés, de la grâce qui est liée à cela. C'est ainsi que le salut de notre âme est ancré dans ces choses. Car c'est dans cela que le salut de notre âme est ancré. Car il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Qu'est-ce que la lumière a à voir avec les ténèbres, croyants avec des incroyants? Qu'est-ce que Christ a à faire avec Balaam? Qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ, la troupe rachetée par le sang, qu'est-ce qu'elle a à faire avec tous ces enseignements, ces hommes et ces églises fondées par des hommes? Notre Seigneur dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Le Seigneur n'a pas 200 églises, il n'a qu'une seule église qui est constituée de toutes les églises et les églises libres, de tous les peuples, les langues et les nations, qui est appelée à sortir de tous les peuples, les langues et les nations, les différentes églises, et qui est soumise à Christ, le chef de l'église, la tête de l'église. Et dans cette église, rien n'est valable qui a été conclu et décidé dans les différents conciles. Non, dans l'église du Dieu vivant, c'est seulement la parole de Dieu qui est valable. Et cela pour toute l'éternité. Nous regardons encore dans quelques écritures pour nous représenter devant les yeux ce que Paul, déjà autrefois, avait dans le cœur. C'est-à-dire, il voulait présenter à Christ, conduire à Christ une vierge chaste. Ici dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, au verset 2 et 3. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2 et 3. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ici, il parle du mystère de Christ et l'Église. Ensuite, la crainte suit au verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et après, l'apôtre, peut-être que nous lisons cela pour que nous puissions la voir exactement. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et ça, c'est le problème à l'intérieur des groupes de ceux qui se réfèrent au ministère de Frère Branham et au message de l'heure. Si quelqu'un vient, s'amène, et leur dit, le prophète a dit, alors personne pense à ouvrir sa Bible. Alors tous sont déjà dans un enthousiasme bien. Nous sommes seulement dans le bon enthousiasme si dans notre foi, dans ce qu'on croit, cela est en accord avec Dieu et sa parole. Une atmosphère qui est seulement produite par des hommes. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin de la parole de Dieu originale, des bénédictions originales, des expériences originales avec Dieu. Et bien, mes frères et sœurs, que nous puissions rester attachés à cette vérité de ce que nous ne devons pas seulement avoir entendu le message de du rétablissement de toutes choses, mais le message est procureur de la chose elle-même, mais la chose elle-même doit suivre le message tel que notre Seigneur l'a dit. Je vais et je reviens bientôt. C'est ainsi que toutes les promesses qu'il a données sont oui et sont amen. Celui qui veut encore savoir bien les choses, mieux les choses, qui puisse le lire dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, le chapitre 9, au moins le verset 8. Romains, chapitre 9, verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité d'Abraham. Pourquoi est-ce que nous insistons dans chaque prédication les promesses? Et Abraham est réellement nous a été donné comme un exemple, un modèle. Il était celui qui habitait dans un pays de l'autre côté du fleuve l'Euphrate, parmi les païens. Et voilà que Dieu le Seigneur a quitté le ciel et va et vient sur cette terre et parle à un homme. Cet homme auparavant, avec Nahor et tous les autres, servi d'autres dieux. Il a marché dans ses propres voies et a suivi sa propre religion. Mais au moment où Dieu Seigneur était descendu et avait visité Abraham, quelque chose s'est passé. Et cela s'est passé une fois pour toutes. Bien-aimés frères et sœurs, une prédication ne nous suffit pas. Il faut que le Seigneur, dans sa parole, nous rencontre. Et au moment où le Seigneur nous rencontre personnellement dans sa parole, et que l'appel à sortir a lieu, et que les promesses dans notre cœur tombe. À ce moment-là, nous ne regardons plus aux circonstances, à ce que nous voyons. Regardons plus aux choses visibles, mais aux choses invisibles, comme si on le voyait. Et il est écrit dans l'Épître aux Hébreux que Dieu a confirmé la parole. Lisons cela dans Hébreux chapitre 6. Lisons ces paroles merveilleuses. Il a confirmé la parole par un serment. Apocalypse, Hébreux chapitre 6, versets 13 et 14. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même. Par lui-même. Imaginez-vous un peu, réfléchissez un peu. À tel point Dieu rencontre l'homme, vient à l'homme. Abraham est devant lui et il lui donne la promesse et il voit Abraham. Abraham est un homme comme tous les autres hommes. Et pour que Abraham ne vienne dans un moment où il pourrait être éprouvé et tenté d'incrédulité, Dieu a juré à Abraham par un serment que la promesse qu'il lui a faite va s'accomplir. Et que cela n'est pas extraordinaire. Bien, mes frères et sœurs, est-ce que Dieu avait nécessaire? Dieu n'avait pas nécessaire de le faire. Mais c'était Abraham qui avait nécessaire. Pour que jamais un doute vienne dans sa vie, Dieu a juré par lui-même. Et il a dit, je te le jure. C'est ainsi, tel que je l'ai dit et je l'ai promis. C'est ainsi que cela s'accomplira. Bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Quel est notre cas? Oh, la certitude que nous avons dans la parole de Dieu. Toutes les paroles sont oui et sont amen. Et toutes les promesses nous appartiennent, car nous sommes la semence spirituelle d'Abraham. Il continue encore au verset 14. Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Dieu a juré, Abraham a cru. Et ensuite, il est écrit au verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. N'avons-nous pas lu dans Jacques 5, verset 7? Persévérez, bien-aimés frères. Abraham a persévéré. Il savait que Dieu avait donné les promesses. Dieu les a confirmées par un serment. Tel que Dieu l'a dit, c'est ainsi que cela va s'accomplir. Est-ce que cela n'est pas notre foi aussi? Est-ce que notre foi n'est pas là ancrée telle que tu l'as dit? C'est ainsi que cela sera. C'est ainsi que cela va s'accomplir. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Lui, il l'a persévéré patiemment et c'est ainsi qu'ayant persévéré, il obtint ce qui lui avait été promis. C'est le verset 15. Bien-aimés frères et sœurs, rien sur terre est plus certain que l'accomplissement des promesses que Dieu nous a données. Personne peut empêcher cela. C'est impossible. Dieu, avant même la fondation du monde, a pu affermir son destin de salut. Car il connaît la fin de toutes choses avant même le commencement. Il sait ce qui viendra à l'avance. C'est ainsi qu'il est écrit au verset 16 et 17. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Une garantie. Et encore une fois, il est fait référence à Dieu, encore au verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. L'immuabilité de sa résolution. Il intervint par un serment. Il n'a pas seulement donné la promesse. Il n'a pas seulement juré par lui-même. Mais comme garant, il s'est porté garant. Il a donné la garantie que ce qu'il a promis doit s'accomplir, va s'accomplir. Il a donné la garantie. Il s'est porté garant. Ça, c'est quelque chose de glorieux. Et ça, c'est valable pour nous aujourd'hui tous, bien-aimés frères et sœurs. Et bien-aimés sœurs. Bien-aimés frères et sœurs. Dans Romains chapitre 5, nous avons les paroles merveilleuses sur la rédemption, sur le pardon, sur la grâce et le salut. Romains, chapitre 5, verset 9.
So werden wir also jetzt, nachdem wir durch sein Blut,
aura plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ensuite, nous allons au verset 18 et 19, où encore une fois, il est confirmé ce qui s'est passé pour nous. Le pardon, la grâce et le salut. Romains chapitre 5, verset 18 et 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes,
so kommt es auch durch eine einzige Rechttat für alle Menschen zum Leben.
De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Nous n'avons rien apporté comme contribution pour naître dans le péché. Nous n'avons rien fait pour cela. Nous n'avons rien fait non plus pour que le Rédempteur, le Sauveur, pour nous, deviennent péchés pour que en lui nous participions, nous devenons participants à la justice de Dieu, nous devenions justice de Dieu. C'est ainsi que, comme il est écrit ici, au verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Tout a eu lieu pour nous. Et maintenant, cela a lieu par la grâce de Dieu, par nous. Pour nous et maintenant par nous. Nous avons le pardon, la réconciliation, la grâce que nous avons accepté personnellement. Nous avons expérimenté ce que Dieu nous a promis et en Jésus-Christ accordé, en Jésus-Christ notre Seigneur et Rédempteur, par sa grâce accordée. Et nous croyons que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Nous croyons que le chemin de Dieu à nous est notre chemin à Dieu. Et que il n'y a qu'un seul chemin, un seul qui pouvait dire, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Dans Romains le chapitre 8, il est écrit au verset 3, Romains chapitre 8, verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est Dieu qui avait prononcé la condamnation et c'est notre Seigneur et Rédempteur qui a été frappé de cette condamnation au moment où tes péchés et mes péchés, tes fautes et mes fautes ont été placés sur l'agneau de Dieu. À cause de nos péchés, cela a eu lieu. C'est pour cette raison que notre Seigneur dit, si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Nous croyons qu'il est. Nous croyons qu'il est le grand Je suis. Dans l'Ancien Testament, il n'était pas encore en tant que fils manifesté. Dans tout l'Ancien Testament, il était le Seigneur, le Je suis, qui marchait dans le jardin d'Éden et qui parlait aux prophètes, qui a visité Abraham et qui, selon le chapitre 18 dans Genèse, s'est assis et a mangé avec Abraham et avec les deux anges qui ensuite sont allés à Sodome. Dans l'Ancien Testament, il était le Seigneur, Yahvé. Dans le Nouveau Testament, il est Yahshua, Yahvé Sauveur. Même le mot hébreu en soi, même nous exprime, nous dit qui était le Rédempteur, le Sauveur et est le Rédempteur. Yahvé, l'Éternel, qui le même Je suis. Et dans le Nouveau Testament, tu appelleras son nom Yahshua, c'est-à-dire Yahvé, ensuite Shua, ça veut dire sauveur, c'est-à-dire il sera Yahvé lui-même venant sauver, devenir sauveur. Et vous pouvez vous-même lire, après la résurrection de notre Seigneur, il n'a plus jamais été désigné de fils, mais toujours le Seigneur. Vous pouvez le lire. Vous savez que tout a sa place dans les Saintes Écritures. Même dans 1 Corinthiens 12, verset 3, personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur seulement par le Saint-Esprit. Et nous pourrions aller d'écriture en écriture. Il est tout en tous. Il est l'agneau de Dieu. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le fils de Dieu. Il est le fils d'Abraham. Il est le fils de David. Il est le fils de l'homme. Il est avocat. Il est médiateur. Il peut être tout en tous. Ne vous inquiétez pas. Et il devait devenir tout en tous, à cause de nous, pour que nous puissions avoir tout en lui. Oh, loué et exalté soit le Seigneur. Pour que nous puissions tous avoir tout en lui. Ce ne sont pas des points d'enseignement sur lesquels on se dispute. Ce sont des réalités, des vérités bibliques pour lesquelles nous sommes reconnaissants pour chaque parole de Dieu. Il y a ici encore les Écritures qui doivent être encore tous lues, mais allons dans Colossiens, le premier chapitre, pour encore une fois montrer de quelle manière les hommes de Dieu, au commencement, ont prêché l'Évangile et ont exposé les vérités bibliques. Colossiens, premier chapitre, au verset 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon, la rédemption par son sang. En amont, c'est écrit ici. Par son sang, le pardon des péchés. Dites amen par cela. Ce n'est pas des choses que nous allons avoir recevoir dans le futur. Il a été déjà frappé à cause de nos péchés, meurtri à cause de nos maladies. La condamnation a été placée sur lui pour que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous sommes, par la grâce de Dieu, guéris. C'est quelque chose qui est déjà accompli. En qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Ensuite, au verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses. Nous venons de dire, il était celui qui marchait dans le jardin d'Éden, la parole, avant que toute chose ait été appelée à l'existence. Et aujourd'hui encore, selon Hébreux 1, tout l'univers est porté par sa parole créatrice. Lisons encore ici, au verset 16 de Colossiens chapitre 1. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Et maintenant, suis notre part, ta part et ma part. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, c'est-à-dire de l'Église. Le chef, la tête du corps de l'Église. Verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude, toute la plénitude en lui. Verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Donc, nous avons réellement aucune personne religieuse ou nous n'avons pas besoin de personne religieuse ou bien institution religieuse. Dieu n'a pas établi une religion. Dieu, comme Père, s'est révélé dans son Fils, seul engendré par lui. Nous lisons l'objectif, comme dans Galates 4, verset 4, c'est pour nous accorder la position de l'adoption de fils. Galates chapitre 4, au verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Bien-aimés frères et sœurs, c'est accompli. C'est une œuvre parfaite, achevée, accomplie de la rédemption que Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur, nous a accordé. Celui qui ne prend pas part à cela va dans la perdition. Et cela est une douleur. Tous ceux qui méprisent la parole de Dieu, le message qui nous a été accordé, et qui ajoutent quelque chose à ce message, qui disons les choses telles que c'est, si par exemple, quelqu'un interprète et tord le sens de ces vraies, de ces paroles précieuses que nous recevons. Tord le sens. Il le fait pour sa propre perdition et pour la perdition de ceux qui suivent de tels frères qui réellement n'ont rien d'autre à faire. Et s'il vous plaît, écoutez bien et tenez-vous bien. Il se concentre sur aucun verset biblique qui pourrait servir le peuple de Dieu. Non, il se concentre sur des citations qui peuvent être comprises de différentes manières, qui peuvent être interprétées de différentes manières. Et malheureusement, ils arrivent toujours de nouveau au résultat faux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu qui lui conduit dans toute la vérité. Ils ont rassemblé beaucoup d'idées dans leur tête. Comme je le disais hier, certains d'eux qui sont nés après 63, après 1963, prétendent que le Seigneur a besoin de tout un laps de temps pour revenir et se référer à cela, à Jésus-Christ notre Seigneur, qui a commencé son ministère seulement à... qui pouvait commencer son ministère seulement à 30 ans, parce que c'est ainsi que c'est écrit dans Nombre, chapitre 4, à partir du verset 1, qu'un Lévite pouvait commencer son ministère seulement à 30 ans. Et c'est ainsi que notre Seigneur devait accomplir et mettre en pratique la loi et a commencé son ministère quand le temps fut accompli. Mais qu'est-ce que cela a à faire avec le retour de Jésus-Christ qui aura lieu dans un seul jour, dans une seule heure, comme l'éclair apparaît à l'est et éclaire l'ouest. Bien aimé, frères et sœurs, nous devons toujours de nouveau insister là-dessus et dire que pour nous, c'est un grand privilège d'avoir reçu la crainte de Dieu par Dieu lui-même et de ne jamais avoir le désir de savoir quelque chose, de pouvoir quelque chose. Mais comme le prophète Ésaïe, comme dans le prophète Ésaïe, il est écrit, tu m'as accordé une oreille de disciple au Dieu, une oreille ouverte pour entendre comme un disciple entend. Et ensuite, s'ajoute à cela que le Seigneur accorde aux siens qui marchent avec lui et avec qui il marche. Il leur accorde cette grâce de parler avec eux sur toute la Bible. Il peut commencer avec Genèse, avec Moïse, continuer avec les psaumes, continuer avec les prophètes, avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Il peut parler avec eux de toute la Bible. Et voilà, il parle pas seulement avec eux. Il leur ouvre, il nous ouvre l'intelligence pour l'accomplissement de ce qui est écrit. Et ensuite, c'est ainsi que notre Seigneur peut toujours de nouveau ouvrir le livre des livres, le prendre entre ses mains et dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Beaucoup de choses s'accomplissent devant nos yeux. Nous ne sommes même pas venus à parler des signes des temps. Mais nous avons tous déjà compris cela, que nous vivons à la fin de la fin des temps, que nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. Résumons ensemble de quoi il s'agit. Nous avons dans cet âge de temps prophétique, dans ce passage prophétique de cet âge de temps, nous avons eu un ministère prophétique, car c'est toujours encore écrit que Dieu ne fait rien sur terre sans d'abord avoir révélé ses secrets à ses prophètes. C'est ainsi que c'est écrit Amos 3, verset 7. Et ensuite il est écrit, est-ce qu'une trompette retentira dans la ville sans que les hommes soient terrifiés? Quand il s'agit de la partie prophétique de l'histoire du salut, Dieu a toujours envoyé des prophètes. Et dans le Nouveau Testament, ce sont les apôtres et les prophètes. Et celui qui va dans Apocalypse 10, là, de nouveau, la relation est faite. Oui, il est dit, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes, ou bien révélé en allemand à ses serviteurs les prophètes. Et bien, mes frères et sœurs, là aussi, il y a toujours des paroles clés qui nous ouvrent pour nous donner le contexte, pour voir par la grâce Le contexte ici, par exemple, Paul écrit aux Éphésiens. Alors, il écrit et il dit, comme il l'a révélé maintenant à ses apôtres et à ses prophètes. Et ce qui va dans l'Apocalypse 10 et lit, il peut constater ce qui est écrit là. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, sonnerait, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. En fait, et ça je le dis maintenant pour tous les frères qui écoutent, ici il s'agit du septième ange de trompette et pas du septième ange envoyé au dernier âge de l'église de Laodicée, mais au septième ange de trompette duquel ici, après l'ouverture du septième sceau, il est parlé ici. Dans Apocalypse, le chapitre 8, au verset 1, ce silence d'une demi-heure. Ensuite, au verset 2, Apocalypse 8, verset 2, et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et cette trompette leur furent données. La première trompette au verset 7, la deuxième au verset 8, la troisième au verset 10, la quatrième au verset 12, la cinquième au chapitre 9, verset 1, et ensuite la sixième au chapitre 9, verset 13. Et cette trompette-là nous conduit déjà aux quatre anges de jugement qui sont liés au fleuve de l'Euphrate pour détruire le tiers du monde. Et si vous pouvez écouter bien, dans Apocalypse 7, cela est annoncé à l'avance. Et dans Apocalypse 9, cela s'accomplit. Apocalypse 7, au verset 1, voilà ce qui est annoncé. Après cela, je vis quatre anges, quatre par sept, quatre anges qui sont liés. Et ici, dans l'avant-dernière trompette, il est écrit, dans Apocalypse 9, au verset 13 et 14, le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et ensuite, cela se passe, ce qui est décrit, qu'un tiers des hommes n'existera plus. Ici, nous avons la sixième trompette, et ensuite, au chapitre 10, au verset 7, nous avons l'annonce de nouveau que quand le septième ange sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes, comme il a révélé. Bien-aimés frères et sœurs, j'aime l'ordre divin dans la parole. Et je remercie Dieu pour la conduite de son Saint-Esprit. Aucun homme ne se retrouverait. Ça, les têtes intelligentes dans tout le passé ont souvent essayé. Et ils ont fait qu'interpréter. Et quelque part, ils sont arrivés à ce point où vraiment, ce n'était plus possible de continuer. Nous comprenons que c'est par le dernier ministère, et avec ça nous venons à la fin, c'est par le dernier ministère, par le ministère de frère Branham, que tous les mystères qui étaient cachés ont été révélés. Déjà du jardin d'Éden, du premier chapitre de la Bible jusqu'au dernier, tout a été révélé. Rien est resté obscur. La lumière claire, lui, par la révélation, nous pouvons voir tout. Mais, et là, ici, nous devons faire attention, frère Branham, à chaque fois qu'il faisait référence à Apocalypse 10, verset 7, il a parlé des mystères au pluriel. Et pas du mystère. Il a cité ce verset-là au pluriel. Et ça aussi, en fait, les frères devaient le constater. Ils devraient le constater. Tous ceux qui se disent ceci et cela et prétendent être la bouche, la voix du message. Bien, frères et sœurs, j'ai souvent eu à le dire. Quand le pluriel est écrit, alors le pluriel à sa place. Quand le singulier est écrit, alors le singulier à sa place. Toujours dans l'ordre divin. On doit respecter même le pluriel et le singulier dans la parole de Dieu. Mais ici est le point. Frère Branham n'était pas celui dont au singulier, le mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ, s'accomplirait. Car par son ministère prophétique, en vertu d'une des révélations divines qui lui ont été accordées en tant que prophète, réellement, tout a été révélé au pluriel, sur la divinité, sur le baptême, sur le souper, sur la chute de l'homme, fondamentalement, sur l'élection de la prédestination. Tous les thèmes, les sujets bibliques ont été révélés. Et cela au pluriel, les mystères. Mais quand il s'agit d'Israël, alors il s'agit seulement de ce seul et unique mystère au singulier, du mystère de Dieu. Et le mystère de Dieu, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu manifesté dans la chair, justifié en esprit, reçu aussi dans la gloire, prêché parmi les peuples. Bien-aimés frères et sœurs, nous remercions Dieu le Seigneur pour la plénitude de sa parole, pour chaque parole, pour chaque chapitre, pour chaque sujet. Nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur. Nous souhaitons à tous les frères et à toutes les sœurs dans le monde entier que l'Église épouse marche dans le même pas, revienne au pas semblable, au pas commun, et que tous nous puissions parvenir à l'unité de la foi et trouver dans l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Un Seigneur, un baptême, une foi, pas de doctrine étrangère particulière, pas de tort de les Écritures et les citations, mais un vrai exposé et un exposé clair et vrai de la parole de Dieu, tel que par la grâce de Dieu, cela nous a été révélé. Et que tous ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Et si dans la foi nous les écoutons, alors elles nous seront révélées par la grâce de Dieu. À lui, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu seul, éternel, soit l'honneur, la gloire et l'honneur dans toute éternité. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous levons pour la prière. Chantons encore ce cœur. Tel que je suis, sans rien de moi.
Nicht Macht, ne Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Pendant que nous persévérons dans la prière, je voudrais demander particulièrement à tous ceux qui viennent nouvellement, je voudrais simplement demander, avez-vous expérimenté une conversion? Avez-vous été régénéré? Avez-vous expérimenté une nouvelle naissance? Est-ce que la parole de Dieu comme semence, en tant que semence, a été semée dans votre cœur? Oui, implantée. Et bien aimés frères et sœurs, j'ai cette question adressée à vous et dans le monde entier, à tous les frères et les sœurs. J'ai cette demande, pas cette question, j'ai cette demande de ne rien mélanger, de ne rien interpréter, de ne rien expliquer, mais la parole vraie et claire de Dieu qui demeure éternellement. Combien sont d'accord que nous ne devons pas prêter nos oreilles à ne serait-ce plus à aucune interprétation de la parole de Dieu et du message, mais demeurer d'aller seulement d'écriture en écriture, demeurer dans la parole de la vérité. Si vous êtes d'accord, dites Amen, Amen, Amen. Seulement demeurer dans les écritures, dans la parole de Dieu. Cela confirme que nous sommes la semence divine, la semence de Dieu. Car dans Jean 8, au verset 43, le Seigneur a dit aux scribes et pharisiens, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas comprendre, écouter même mes paroles? Et ensuite, il donne lui-même la réponse. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole, parce que vous n'êtes pas de Dieu, vous n'êtes pas de Dieu. C'est déjà comme ça que nous avons l'examen. Est-ce que nous avons l'amen entier sur toute la parole de Dieu? Et même si nous l'écoutions pour la première fois, oh que je veux le dire, si tu as été élu, prédestiné avant même la fondation du monde, comme fils et fille de Dieu, alors ton cœur s'ouvrira, comme le cœur de Marie et de Lydia, et de tous, et le cœur, comme le cœur de tous ceux qui s'ouvraient, qui écoutaient la parole de Dieu. La résistance sera abandonnée. Les propres connaissances seront laissées de côté. Nous mettons de l'ordre. Nous mettons de l'ordre avec tout le vieux levain pour devenir une pâte, une nouvelle pâte agréable, de véracité et de pureté, comme Paul l'a écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 5, au verset 7. Qui, comme Abraham, veut croire de tout son cœur et se détacher de tout, se séparer de tout et vivre de la conviction, de cette conviction que Dieu est plus que capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est l'Église, la chose la plus merveilleuse, la chose la plus précieuse, la chose la plus précieuse que Dieu a sur terre. C'est l'Église. C'est la troupe rachetée par le sang. L'Église des premiers-nés. C'est pour cette raison, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes précieux aux cieux de Dieu. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, a versé son sang pour nous, pour nous. Il nous a rachetés. Réjouissez-vous! Il nous a rachetés. Nos fautes et nos péchés sont pardonnés. Nous avons reçu la grâce auprès de Dieu. Combien veulent lever la main pour que nous puissions penser à vous, vous inclure dans la prière. Nous tous, oui, de préférence, tous, nous levons les mains et prions. Faisons-le. Ô bien-aimé Seigneur, ta parole, aujourd'hui aussi, ne revient pas sans effet. Elle produit l'effet pour lequel tu l'envoies. Et cela, dans le monde entier, sur toute la terre, elle produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé et accomplit ta volonté. Pour appeler à sortir, pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour révéler. Oh, bien-aimé Seigneur, que tu puisses avoir ton chemin avec ton Église. Bénis, bénis, tel que tu as béni Abraham, rempli, rempli, accompli, accompli les promesses, accompli-les dans le proche futur. Nous l'espérons, nous nous attendons à cela. Nous croyons et nous te donnons à toi seul l'honneur. Alléluia. Louez le Seigneur. Exaltez son Saint nom. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus.
Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus.
Oh, c'est Jésus. Seulement Jésus. J'ai touché le bord de son vêtement et son sang m'a purifié.
Amen.
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 Nous nous asseyons. Aujourd'hui, nous n'avons même pas parlé du baptême d'eau. Celui qui prend la décision, l'eau est à la disposition de tous. L'eau est à leur disposition. Nous remercions aussi le Seigneur pour ce week-end. Qu'est-ce que je dois dire? Vous savez, avec tous ces voyages et tout, ce qui est lié au ministère nuit et jour, aussi corporellement, on n'est pas toujours comme ça fort, comme on l'aurait bien voulu. Mais à cause de la parole du Seigneur, donc on n'est pas toujours dans ses forces corporellement, mais à cause de l'Église, de l'Église épouse qui est encore éparpillée dans le monde entier, j'ose encore toujours de nouveau me mettre en voyage pour prêcher et porter le message merveilleux. Et je me remets à vos prières quotidiennes. Pensez à moi pour que le Seigneur fidèle m'accorde la parole telle qu'elle doit être apportée. Je ne veux rien d'autre et rien d'autre doit être. Seulement être la voix du Seigneur, la bouche du Seigneur pour transmettre et apporter ce qui est écrit dans cette parole. Je voudrais encore insister. Nous saluons tous ceux qui s'ajoutent nouvellement, parce que toujours de nouveau nous le faisons, nous vous souhaitons les bienvenus et là nous croyons que le Seigneur bientôt de la même manière vous apportera dans l'état spirituel dans lequel il nous a apporté depuis toutes ces années où nous sommes sous cet enseignement merveilleux, la croissance qu'il nous a accordé, la croissance dans laquelle il nous a conservé et accordé sa grâce. Nous croyons qu'il le fera pour vous aussi, la grâce de reconnaître selon les Écritures et l'ordonner dans la Bible, le ministère de Frère Branham, de le reconnaître dans la parole de Dieu. La grâce aussi de mettre chaque écriture à sa place dans le contexte où il a sa place. Ça, ce n'est plus le ministère prophétique direct. Ça, c'est le ministère de docteur. Les prophètes ont dit des choses comme ça en gros, ce qui leur a été révélé. Mais les apôtres ont, dans les détails, exposé ce que les prophètes avaient vu et ce qui leur avait été révélé. De la même manière, c'est maintenant ainsi. Tout ce que Dieu nous voulait nous révéler, il nous l'a révélé par le ministère de Frère Branham. Et vous savez tous exactement qu'il a reçu l'ordre de ne plus voyager, mais d'aller à Jeffersonville et d'emmagasiner là-bas, dans la chapelle, par les prédications que tu tiendras la nourriture spirituelle. Et ensuite, réellement, il a dit, si je, quand je n'existerai plus là, sur terre, vous allez vous rappeler de ce que je vous ai dit. Et avant son décès, Dieu lui avait révélé, et autrefois déjà à moi aussi, en 1962, que l'une est l'emmagasinement de la nourriture en gros. Nous habitons ici dans un endroit très bien. Nos voisins sont un grand supermarché. Et celui qui va faire des achats là-bas au supermarché, il va chercher des aliments, je dirais donc des paniers pleins. Mais ça, ce n'est pas encore un repas préparé sur la table. C'est seulement quand tout cet achat qui a été fait, quand l'achat a eu lieu et que tout est amené à la maison, est venu à la maison, alors c'est ainsi que la nourriture est préparée. C'est la même chose. C'est ce que Dieu a fait dans cette parabole-là en disant d'emmagasiner la nourriture et de la distribuer. C'est une parabole. C'est ainsi qu'il a révélé dans cette parabole la signification de ces choses pour nous et nous l'a accordé. Vous pouvez comprendre cela? Vous pouvez comprendre? Ça, c'est en fait plus clair que le 1 fois 1. Donc, remercions Dieu aussi dans ce point pour l'ordre divin. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous permettre de quitter l'ordre divin, d'être à l'extérieur de l'ordre divin, de sortir de l'ordre divin. C'est peut-être donc qu'aujourd'hui, que cela soit dit, nous avons de la responsabilité, des responsabilités devant Dieu. Nous avons été chargés de responsabilités devant Dieu. La plus grande responsabilité qui a existé sur terre, c'est-à-dire maintenant, directement avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et bien, mes frères et sœurs, je porte cette responsabilité presque comme un fardeau. Mais le Seigneur m'aide. Et je voudrais, comme Paul l'a écrit à Timothée, exécute l'ordre, le ministère, d'une manière que tu n'aies pas besoin de rougir le jour de Jésus-Christ, au jour de Jésus-Christ. Je voudrais prêcher la vraie précieuse parole de Dieu, la prêcher telle que, d'une manière que, avec vous ensemble, je pourrais me tenir devant Dieu lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ensemble, nous allons voir Dieu. Ça, c'est la promesse. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Recevez des salutations en Finlande. Prenez des salutations, saluez dans tous les pays de notre part, dans toute l'Europe, que ce soit la Pologne, la Slovaquie, la Tchèque, l'Italie, l'Autriche, la Suisse, la Belgique, la France, l'Hollande, Pretoria, Montréal. Prenez des salutations à Ouzbékistan, partout.
Du bist würdig, du bist würdig, o Herr, ihn zu geben. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, du bist würdig, o Herr, Halleluja, Glory, Glory, Halleluja, Glory, Glory, Halleluja, seine Wahrheit schreitet voran.
Amen.
Amen.